Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre de l'été. Chaque semaine, nous nous penchons sur la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature, un mythe. Cette semaine, on connaît bien ses romans. Peut-être un peu moins l'homme, L'île au trésor, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nous évoquerons aujourd'hui Robert Louis Stevenson. Pour en parler, j'ai invité le journaliste et écrivain Hubert Prolongeau, qui vient de signer une très belle préface d'un livre méconnu de Stevenson, de deux livres même. On le retrouve dans un instant. Mais je vous annonce quand même la suite. Nous visiterons une bibliothèque, celle d'Isabelle Carré, aujourd'hui actrice et grande lectrice. Puis à la fin de cette émission, nous recevrons deux libraires de l'équipe pour deux très bons conseils, évidemment. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Bonjour Hubert Prolongeau.
Bonjour.
Vous avez préfacé, je disais, un livre publié chez Artaud il y a quelques semaines, Voyage en France, voyage au pluriel de Stevenson, qui regroupe en fait deux récits. L'un plutôt connu, avec Voyage avec un âne dans les Cévennes, mais aussi moins connu, En canoë sur les rivières du Nord. On en parlera tout à l'heure, mais commençons par le début, Stevenson. Où est-il né, Stevenson? Dans quel contexte, quel milieu, etc. Il faut toujours commencer par le commencement.
Il est né en Écosse, à Édimbourg, dans un pays froid et humide, ce qui aura des conséquences non négligeables, malheureusement, sur sa santé, et dans un milieu, une famille d'ingénieurs, qui aura aussi des conséquences sur son évolution, puisque son père, qui semble être quelqu'un de très autoritaire, n'aura de cesse que de le pousser dans deux voies qu'il refusera, l'une ingénieur et l'autre avocat. Donc il naît là, il a une enfance assez difficile, sa mère est très malade, elle s'en occupe peu, il est confié à plusieurs gouvernantes, dont une qui formera son imaginaire en lui lisant des tas d'histoires terrifiantes. L'Écosse, c'est pas pour rien, c'est le pays des fantômes. Et elle lira énormément de livres comme ça. Lui, étant malade, sera souvent à la maison. Il aura des terreurs nocturnes qu'il a plus tard mises en scène dans des poèmes qui l'impressionneront énormément. Et il sera très marqué par des personnages qui sont les Covenantaires, qui sont des religieux réfractaires à la religion calviniste majoritaire et qui l'affronteront et seront massacrés par ses adversaires et ses personnages rebelles dont Stevenson cherchera les traces chez les camisards des Cévennes sont des personnages qui le marqueront beaucoup, non seulement par leur destin mais aussi par la manière d'écrire des écrits covenantaires dont on retrouve beaucoup de traces dans ses livres à lui.
Vous l'avez dit, il a eu des graves problèmes de santé jeune, mais qu'il tiendra toute sa vie. Mais, alors je ne sais pas si on peut dire ça, c'est peut-être maladroit, mais enfin, il a quand même cette bénédiction de cette malédiction, c'est-à-dire qu'il est cloué au lit régulièrement et il lit énormément.
Et c'est vrai qu'il aurait pété la forme, il serait peut-être devenu joueur de rugby et on n'aurait jamais eu l'île au trésor.
Et ça lui donne envie de bouger en plus.
Oui, complètement. Et il a beaucoup bougé, parce qu'en fait, dans sa révolte contre son milieu, qui a été très fondatrice chez lui, et professionnellement et dans la vie, il a toujours eu envie de partir, de s'éloigner, et il est allé très loin. La fin de sa vie a même été déterminée dans les îles du Pacifique, dans les Samoa, aussi par des raisons médicales, puisque à un moment, les médecins lui ont dit qu'il ne pouvait plus se permettre de partir loin d'un climat chaud et tropical, ce qui était un peu mal vu, puisque les Samoa sont au contraire une île au climat très, 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 très lourd et qui sans doute n'ont pas aidé à sa santé.
On va parler de ses voyages tout à l'heure, mais il vient aussi, vous l'avez dit, d'une famille d'ingénieurs et notamment de spécialistes des phares.
Oui,
on ne peut pas s'empêcher d'y voir quand même aussi là un appel au large.
Complètement. Quoi. Et appel au large qui va transformer, puisqu'elle a refusé de construire les phares comme on aurait voulu qu'ils le fassent, pour au contraire partir très loin, c'est-à-dire dans la direction qu'ils indiquent, plus que de rester à leur pied
sur la côte.
et aller mettre en place.
Quand est-ce qu'il commence à écrire ?
Elle commence à écrire très très tôt. Ça l'a pris très jeune et dès ses premières années, son envie a été d'écrire. Donc c'était un gros lecteur, mais un gros lecteur qui très rapidement est passé à l'acte. Il a publié, alors comme beaucoup, d'abord des poèmes, puis des récits de voyage, puis des romans, mais il s'est mis à écrire vraiment, vraiment très jeune. Ouais, c'est pas un de ces romanciers tardifs que la maturité révèle à eux-mêmes, c'est au contraire un espèce de jeune chien fou surdoué qui se précipite sur la littérature d'emblée.
Oui, il a un côté surdoué d'ailleurs, y compris dans son comportement. Il est placé dans une institution d'enfants différents, etc., où ça se passe plutôt bien d'ailleurs.
Oui, c'est jamais été intellectuellement qu'il a posé des problèmes à ses parents et à la voie que voulait lui tracer son père. Ça a été dans sa rébellion, dans sa volonté et dans son affirmation de faire autre chose de sa vie que ce que les autres voulaient en faire.
Et alors justement, dans la même idée, autour de ses 20 ans, il entame une sorte de vie de bohème qui tranche complètement avec la rigidité familiale.
Et qui se passe beaucoup en France. Oui. Oui, il part. Alors, il y a des épisodes scandaleux. Il vit un moment à Édimbourg avec une prostituée, puis il rejoint un groupe d'artistes, certains peintres, certains, dans un village à côté de Barbizon, où il va faire la rencontre de Fanny Osborne. Il est beaucoup entraîné là-dedans par alors, ceux dont certains estiment qu'il lui a permis de déployer ses ailes et d'autres qu'au contraire, il a été son mauvais génie, qui est son cousin Bob Stevenson, dont on suppose qu'il avait fréquenté Fanny avant lui et qu'il a emmené dans ses aventures et beaucoup aidé. Bob, lui, qui de manière étonnante avait une santé sans problème, était paradoxalement des deux, quand ils étaient ensemble, le meneur et a fini à mener une existence beaucoup moins reluisante que celle de Robert Lewis, comme il s'appelait, qu'il a francisé lui-même son nom en Louis quand il était... Pourquoi ? Je pense parce que ça devait déplaire à ses parents. C'est quand même un auteur assez grand chez beaucoup d'adolescents rebelles. Et parce qu'il a aussi beaucoup aimé la France et tout ce qu'il a connu du côté de Barbizon. Donc il a lui-même francisé son nom, qui se prononce toujours pareil, mais qui s'écrit différemment. Et c'est ce nom français qui est entré dans la légende.
Et puis il y a Fanny, vous l'avez évoqué, Fanny Osborne, c'est son grand amour en fait, mais un amour tragique.
Complètement, et une personne elle aussi très étonnante. Quand ils se rencontrent, c'est marrant parce qu'ils se croisent et puis ça ne flash pas, alors que la légende veut que ça soit un coup de foudre immédiat. Ils se revoient l'automne d'après, et là, effectivement, immédiatement, ils tombent très amoureux l'un de l'autre. Fanny avait quitté son mari, elle était là avec ses deux enfants. Elle avait été chercheuse d'or, elle savait tirer à l'arc, elle montait très bien à cheval. Enfin, elle avait une espèce d'aura romantique qui enflammait tout ce groupe de bohèmes qui vivaient dans le coin et parmi lesquels elle a choisi Robert Louis pour vivre une vie qui a été étonnante parce que pas facile du tout, bourrée d'épreuves et qui est allée très loin puisqu'elle l'a accompagnée au Samoa. Elle a été très très motrice dans son envie de partir et que leur histoire a été difficile. Fanny a dû à un moment retourner aux États-Unis.
Parce que vous dites quitter son mari, mais elle n'était pas divorcée.
Voilà, c'est ça. Ce qui à l'époque était quand même un problème majeur. Qu'elle avait pris les enfants, elle était partie en Europe, mais le mari sympa a continué de l'entretenir et puis un jour il a coupé les ponts, elle a dû rentrer aux États-Unis pour entamer sa procédure de divorce et c'est là que Robert Louis est parti lui aussi la rejoindre et comme elle n'était pas totalement libre, a vécu une vie à la fois très difficile et très formatrice en étant lui aussi en faisant des tas de petits boulots. Il a voyagé dans des conditions assez misérables. Si vous voulez, s'il avait été sur le Titanic, il aurait plus été du côté de DiCaprio que du côté de Kate Winslet. Et quand il est arrivé, il a été trimardeur, il a été chercheur d'or. Enfin, il a été dans des conditions très difficiles et a fréquenté comme ça une population immigrée et une misère qui l'ont affecté. Enfin, qui l'ont touché, en tout cas, de manière très, très réelle. Quoi. Il était pas, il s'est pas déguisé pour partir en reportage. Il était vraiment dans des conditions de vie très difficiles.
Parce que sa famille lui a coupé les vivres, lui aussi.
Au bout d'un moment, oui. Sa famille ne supportait pas l'idée qu'il épouse une divorcée. Et donc, Fanny était plus âgée que lui en plus. Enfin, pour une famille très attachée aux apparences, c'est vrai qu'elle cochait pas toutes les bonnes cases.
Puis bientôt, il y aura, pas tout de suite, mais bientôt, l'écriture de L'île au trésor. On en parle dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Hubert Prolongeau pour une émission dédiée aujourd'hui au grand Stevenson et à son île au trésor, bien sûr. Il y a Boris qui me fait des signes, mais je la laisse tourner un peu cette musique. Elle me donne envie d'aborder un bateau ennemi. Vous avez bien sûr reconnu la musique de Pirates des Caraïbes. Toujours efficace, ça n'a pas grand-chose à voir avec Stevenson. Mais quand même, on va en dire un mot tout à l'heure, c'est lui qui va remettre les pirates au goût du jour, d'une certaine manière. Là, nous sommes en 1883. Comment et pourquoi a-t-il écrit peut-être l'un des romans les plus connus au monde, en fait, je vous le dis.
Sans doute. C'est vrai qu'avec
Gagipé,
20 milieux sous les mers, c'est un livre mythique complètement. Il a écrit, il avait commencé à dessiner une carte pour le fils de Fanny, qui s'appelait Lloyd Osborne, qui aura d'ailleurs une importance par la suite, puisqu'ils écriront quelques livres ensemble, et que Osborne aidera beaucoup à diffuser l'œuvre de Stevenson après sa mort. Et à partir de cette carte, il a commencé à écrire un livre. Alors, il a écrit en deux fois, il a écrit 15 chapitres, et puis il a été bloqué. Et puis, quelques mois après, il l'a repris. Et là, il l'a terminé. Le livre a été publié dans une revue pour la jeunesse, ce qui a été le début d'un malentendu qui dure encore, et a connu un gros succès. Il a été traduit en volume après. Et effectivement, il est devenu, au fil des ans, un roman mythique qui a inspiré un nombre de films incroyables et des univers totalement différents. Parce que je ne suis pas sûr que Pirates des Caraïbes, même si c'est très différent, aurait existé sans l'île au trésor. Il y a les Muppets qui ont tourné un film sur l'île au trésor. Il y a eu trois ou quatre versions hollywoodiennes. Enfin, c'est un film qui a énormément diffusé et qui a inspiré après toute une littérature aussi de pirates, même en France, dont un des exemples magnifiques aussi est L'encre de miséricorde de Macorlan.
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de récits littéraires et éventuellement aussi des romans sur la piraterie. Bien sûr, c'est un thème, un motif assez classique finalement, mais Stevenson l'a ancré dans l'imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, quand vous dites Pirates des Caraïbes n'aurait pas existé, sans doute que les créateurs de Pirates des Caraïbes sont inspirés, en tout cas, c'est en eux, cette île au trésor.
Et ils sont tous redevables de l'île au trésor. Alors pourquoi l'île au trésor se détache-t-elle ? Donc, il y a effectivement l'art réel de Stevenson de conduite du récit. Il réfléchissait beaucoup à la façon dont il écrivait. Il a écrit un certain nombre d'articles théoriques qui composent vraiment une espèce de poétique du récit. Il y a ça. Il y a aussi, je crois, beaucoup l'introduction dans un univers de romans d'aventure qui était assez balisé et qu'on lise les feuilletonistes contemporains, les Dumas, les Féval, les assez différenciés entre le bien et le mal, lui introduit une ambiguïté, oui, voire déjà le thème du double qui prendra toute son éclosion avec Dr. Jekyll.
On rappelle, le héros, c'est Jim Hawkins qui est à l'Amiral Benbow, qui est une auberge, et il y a un pirate qui vient un jour, on passe les détails, mais il trouve une carte, le pirate en question meurt d'ailleurs, bon, bref, il s'en va à la recherche de ce trésor. Et sur le bateau, il y a Long John Silver, voilà, qui est le cuisinier, mais qui est en fait le vrai chef, et qui est une ordure, en fait.
Oui, mais un personnage fascinant.
Mais ambigu.
Qui est une espèce de... On imagine que Stevenson a beaucoup transposé des rapports qu'il devait avoir avec son père, qui ont été des rapports très conflictuels, mais en même temps jamais de rupture absolue, puisque son père avait, à l'inverse du voyage avec un âne dans les Cévennes, qui trouvait assez médiocre, a beaucoup aimé l'île au trésor, lui a dit... Enfin, il y a eu quelque chose, sans doute, dans la création de Long John Silver. Ça. Et Long John Silver est le héros à la fois détestable et admirable. C'est un personnage très, 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 très étonnant. On le croit bon au début, il devient mauvais. Il y a là l'introduction de quelque chose de très nouveau dans une littérature dont le manichéisme était sans doute l'un des défauts.
Vous en avez dit un mot tout à l'heure, vous avez parlé de l'ambiguïté de ce roman dédié à la jeunesse au départ, mais qui en fait peut se lire à tous les âges sans aucun problème, évidemment différemment.
Il y a un grand nombre de livres qui connaissent malheureusement ce malentendu. Jules Verne n'est évidemment pas un auteur pour enfants. Dumas,
Le Seigneur des Anneaux.
Et ouais, voilà, c'est ça. Il y a d'ailleurs une richesse dans la littérature pour enfants, quand elle n'est pas faite directement pour eux, qui est énorme. Et beaucoup d'auteurs gagnent énormément à être réédités, à retrouver leur statut d'auteur adulte. Je crois qu'il faudrait rendre hommage, là, en France, du moins, à Michel Lebris, qui a été le grand redécouvreur de Stevenson, et celui, quand même, qui a fait passer l'île au trésor des collections enfants aux collections adultes. Je ne sais pas, chez Gallimard, par exemple, moi, j'ai lu l'île au trésor dans la collection Mille Soleils. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une collection, il y a 50 ans, qui publier uniquement des livres pour la jeunesse. Mmh. Et dans le cas de Stevenson, je crois que le texte était intégral, parce que très souvent, ces livres étaient aussi adaptés, mmh. et c'était encore plus catastrophique. Et aujourd'hui, L'île au trésor est dans la Pléiade, mmh. donc redonné à son statut de livre adulte. Comme tous les grands livres sont des livres qu'on peut lire à des âges très différents, en y trouvant à chaque fois des choses très différentes.
Je voulais le faire à la fin de cet entretien, mais puisque vous parlez de Michel Lebris, je voulais lui dédier cette émission.
C'est la moindre des
il
choses.
Il nous a quittés il y a quelques mois. C'est le chef de L'Étonnant Voyageur, voilà, le Festival de Saint-Malo, le grand spécialiste de la littérature populaire, dont Stevenson.
Écrivain lui-même. Et surtout, il a rendu à Stevenson tout son lustre. Et il a fait un travail d'éditeur incroyable, puisqu'il a publié des tas d'articles, de compléter des livres qu'on ne connaissait pas. Dans Les Mers du Sud, qui est son gros recueil d'articles sur son périple dans le Pacifique, je crois sur 52 articles, il y en avait 37 de traduits simplement, et c'est Lebris qui a fait traduire les autres. Donc il a vraiment refait de Stevenson un immense écrivain.
Et puis en 1886, donc, on a Dr. Jekyll, voilà. Et Mr. Hyde. C'était un extrait de l'adaptation en film de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ça date de 1932, film de Victor Fleming. On se demandait pendant l'extrait, j'étais pas sûr, c'est Victor Fleming.
A priori, oui, il me semble, mais il y en a eu tellement, parce que là aussi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, encore plus que L'île au trésor, sans doute, est devenu un concept mythique. Et il y a eu des versions multiples, il y en a même eu des érotiques, des télévisés, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup servi. Et le thème du dédoublement, c'est-à-dire du partage chez quelqu'un du bien et du mal, est un thème qui est devenu complètement universel. Mr. Hyde, aujourd'hui, est un nom pratiquement un nom commun. Même Philippe Châtel l'employait dans une chanson.
Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est un roman très, très court. C'est une grosse nouvelle, en fait.
Ce qu'on appelle une novella, maintenant.
Novella, voilà, entre le roman et la nouvelle. Mais il y a eu des tas et des tas d'adaptations. Effectivement, c'est complètement dans l'imaginaire collectif. Dès qu'on parle de quelqu'un qui a un peu de versant comme ça, bon, on parle d'un Dr. Jekyll et Mr. Hyde. À l'époque, comment ça a été perçu? Là encore, ça a été un succès immédiat?
Oui, ça a été même un succès, un très gros succès. Le livre a touché à quelque chose de très profond aussi, en développant les ambiguïtés qui étaient déjà présentes dans L'île au trésor, et qu'on retrouve dans un autre roman de Stevenson qui oppose deux frères, qui s'appelle Le Maître de Ballantré, qui est un chef-d'œuvre très noir lui aussi, et qui reprend ce thème. Mais effectivement, Jekyll et Hyde est un livre qui a, un peu comme Frankenstein de Mary Shelley, un peu qui a toucher immédiatement ce public post-victorien qui s'ouvrait à des visions du monde un peu plus noires et un peu plus ambiguës. Stevenson est vraiment, je crois, un des maîtres de l'ambiguïté. Rien chez lui n'est simple, n'est à travers un style qui est souvent assez facile. Il arrive à placer des tas de choses très troublantes. Et dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il utilise ce qu'il utilise beaucoup, la multiplicité des points de vue, ce qui était très nouveau à l'époque. C'est-à-dire que le livre, si mes souvenirs sont bons, se termine par une confession de Hyde, alors qu'il est raconté au début par quelqu'un d'autre.
Par un notaire.
Donc, voilà. Donc il y a vraiment comme ça des points de vue très divers qui composent une vérité fluctuante et qui nous échappe puisqu'on pénètre dans les tréfonds d'âmes très troublées.
Alors, ça lui aurait été inspiré après un cauchemar. Je ne veux pas rentrer dans la psychanalyse de comptoir, mais est-ce que ça dit quelque chose sur Stevenson aussi?
Il en a eu beaucoup, des cauchemars, et il s'en est beaucoup inspiré. Donc, ça dit quelque chose sur sa capacité à transmuer l'inconscient en création et sur le monde dans lequel il vivait, qui était un monde également beaucoup de terreur, d'angoisse. C'était pas quelqu'un d'apaisé.
Alors donc ça, ce sont les œuvres très célèbres de Stevenson. Mais il y en a d'autres, moins connues mais fabuleuses. Direction les Cévennes, dans un instant, avec un âne.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
Une Voix est livre consacrée à Robert Louis Stevenson. Aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure ses romans célèbres et encore largement lus aujourd'hui, mais Hubert Prolongeau, vous êtes toujours avec nous. Vous avez préfacé un très beau livre il y a quelques semaines, Voyage au pluriel, Voyage en France chez Artaud, un livre qui regroupe en fait deux récits. Et on commence par le premier chronologiquement. C'est, si je ne me trompe pas, en canoë sur les rivières du Nord. Il part avec un ami d'Anvers jusqu'à Pontoise en canoë. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il est très jeune à ce moment-là.
Il est très jeune. Il a rencontré ou il va rencontrer Fanny. Il est dans cette vie de bohème dans laquelle il s'est beaucoup épanoui. Et il part de manière assez inédite, puisque à l'époque, ça se pratiquait peu. D'ailleurs, pendant tout le livre, il raconte aussi avec un peu de complaisance la manière dont les gens le regardent passer, dont lui et son ami suscitent la curiosité. Et il y a déjà dans ce voyage un ton très allègre, très humoristique, et une envie de découvrir l'autre qui sera très forte et dans le voyage avec un âne et plus tard dans les mers du Sud. Donc il y a quelqu'un qu'on sent brûlant de curiosité, très très ouvert à l'autre, en même temps avec une distance assez, assez amusée. Et
oui, il est très critique par exemple sur ce qu'il rencontre. Il n'est pas tout est beau, tout est non, gentil,
non,
pas
non,
du tout.
Non, du tout. Et il touche là aussi de manière très spontanée à la vérité des gens. Il y a des portraits comme ça qui sont faits en quelques lignes et qui sont extrêmement justes, extrêmement vrais. Il ne fait pas du tourisme, c'est-à-dire qu'il ne nous accable pas ou très peu de commentaires historiques, de descriptions. Il est vraiment basé sur le voyage et ce qu'il ressent. On n'en est pas encore à Bouvier, à son fameux « c'est pas nous qui faisons les voyages, c'est les voyages qui nous ont ». Mais il y a déjà un peu de ça dans la démarche de Stevenson. Son voyage est unique, c'est lui qui le fait, et ça n'est pas uniquement un descriptif de ce qu'il voit.
En revanche, c'est devenu une forme de documentaire historique parce qu'on visite cette deuxième partie du 19e siècle entre Anvers et Pontoise, l'air de rien, parce que oui, pour lui, c'est juste un témoignage. Aujourd'hui, c'est quand même de l'histoire.
Ah, oui, ça l'est devenu un peu malgré lui. Et je ne sais pas s'il avait conscience en l'écrivant de faire ça, mais effectivement, aujourd'hui, c'est très amusant de reparcourir ces lieux, ce qui se fait beaucoup en Cévennes, moins sur ce trajet en canoë qui n'a pas eu la même bonne fortune en librairie que son successeur.
C'est étonnant. Je ne connaissais pas ce récit. Qu'est-ce qui explique qu'il soit moins connu?
Je ne sais pas. Peut-être l'âne, justement. Peut-être Modestine, qui est devenu un personnage extrêmement, extrêmement connu, alors que les canoës sont moins pittoresques. Mais effectivement, il y a les mêmes qualités dans l'un que dans l'autre. Le même regard, la même observation, le même humour. Et on se demande pourquoi l'un est resté un peu méconnu, alors que l'autre a connu quand même une fortune évidente.
Ben justement, on y va. Voyage avec un âne dans les Cévennes.
Dans une petite localité nommée le Monastier, sise en une agréable vallée de la montagne, à 15 milles du Puy, j'ai passé environ un mois de journées délicieuses. Le Monastier est fameux par la fabrication des dentelles, par l'ivrognerie, par la liberté des propos et les dissensions politiques sans égale.
Voilà la lecture de Voyage avec un âne dans les Cévennes, lue par Chantalou. C'est une chaîne YouTube, les lectures de Chantalou, c'est Boris Paczynski qui me trouve ça, c'est très joli, c'est très bien fait. Et donc ce Voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson, cette fois donc il est à pied, seul, il marche depuis le Monastier, on l'a entendu, à côté du Puy-en-Velay, jusque dans les Cévennes, et cette marche, ce récit, est lié directement à son grand amour, Fanny Osborne.
Tout à fait, puisque Fanny est repartie et c'est un peu désespéré que Stevenson va dans les Cévennes. Et l'une des scènes les plus célèbres, en même temps assez discrètes, il dort la nuit sous les arbres et il pense effectivement à la bien-aimée sans la nommer. Mais on sent quand même tout le poids de cet amour très fort qui ne va pas s'éteindre du tout, puisque après ce voyage, il partira la rejoindre aux États-Unis.
Alors moi, je pensais que c'était vraiment qu'il était parti marcher tout de suite parce que Fanny était repartie aux États-Unis et qu'il s'était mis à marcher du Monastier jusqu'aux Cévennes, jusqu'à épuisement. Mais en fait, j'ai appris en lisant là votre préface qu'il reste au Monastier un mois.
Ouais, il s'est entraîné.
En fait, il
n'était
pas parti pour marcher, restait là, puis tout d'un coup, il est parti.
Et puis il est parti, mais il s'est entraîné, il a fait plein de balades avec quelqu'un du coin. Enfin, il s'est imprégné des mœurs, des coutumes, c'est un peu exagéré, mais de ce qu'était le pays, de ce que pensaient les gens du lieu. Effectivement, quand il est parti, c'était pas totalement en novice, même si son talent d'ânier n'était pas évident au départ. Alors moi, je pense que le succès de ce livre est aussi dû assez démêlé, assez pittoresque, avec Modestine, donc comme tous les ânes, refuse d'avancer quand on lui demande.
Il loue un âne pour porter ses bagages,
voilà,
parce qu'il sait que ça va être un petit peu long. L'âne, c'est Modestine. Au début, ils ne peuvent pas se saquer tous les deux, parce que l'âne était tué forcément, puis lui aussi.
C'est sa nature.
Et puis petit à petit, se crée un lien entre eux, très joli.
Oui. Et à la fin, c'est presque une autre séparation amoureuse qu'il connaît. comment dire, relation qui est passée aussi par un dressage de l'un par l'autre, puisque quelqu'un lui apprend, un a fouetté Modestine avec une baguette pour la faire avancer, baguette qui sera remplacée peu après par un aiguillon, où là, Modestine ne dit plus rien, comprend qu'elle a trouvé son maître, et suit de façon relativement paisible les chemins qu'on lui demande de suivre. Mais à la fin, la séparation est très émouvante, et on sent que voilà, Stevenson quitte quand même quelqu'un qui a compté pour lui.
Et aujourd'hui, c'est un GR officiel.
GR 70.
Voilà, moi je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans. C'est l'autoroute. Hein.
Ah oui.
Tant mieux. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont envie de marcher.
C'est pas le chemin de Saint-Jacques.
Dans les pas de Stevenson.
Pas loin. Oui, oui, non. Ils ont créé autour de ça tout un business quand même touristique, mais qui dit beaucoup de la célébrité du livre, qui a été adapté lui aussi à la télévision par Jean Kerchbron dans les années 70 et qui reste un espèce de bréviaire du voyage. Stevenson a quand même inventé quasiment le sac de couchage, puisque quand il part là, il part avec voilà, un sac fourré dans lequel il se met pour dormir et ça n'existait pas avant.
Donc, et il crée l'expression, c'est ce que vous dites dans la préface.
Oui, 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 tout à fait. Il est le premier à l'utiliser. Peut-être le procédé avait déjà servi, mais c'est lui qui crée le mot et cet usage ô combien répandu depuis.
Alors il crée peut-être pas non plus le genre littéraire, mais quand même c'est vraiment à condenser du récit de voyage qui, on l'a dit avec Modestine, mais dans sa tête aussi, qui fait évoluer le narrateur,
quoi. Bien sûr.
Qui en marchant se transforme petit à petit en rencontrant les autres,
en
se recentrant aussi sur lui-même en marchant.
Et ce livre est aussi un hommage à la rencontre, parce qu'on sent que ce qui motive Stevenson, c'est ça, au-delà des paysages, c'est d'arriver à rencontrer des gens et à grandir à côté d'eux, à se bonifier par ces rencontres qui ne lui enlèvent pas pour autant son sens ni de la critique ni de l'humour, puisqu'il y a un passage très drôle où deux catholiques dont un prêtre essaie de le convertir absolument en vain, et qu'à un moment il n'en peut tellement plus des enfants qui lui courent autour qu'il a une phrase en disant voilà, la bête du Gévaudan en a croqué beaucoup, c'est dommage qu'elle n'ait pas croqué cela en plus.
Les voyages, c'est peut-être ce qui caractérise le mieux Stevenson. Et là on arrive jusqu'à la fin de sa vie, parce que la séquence se termine, mais il termine sa vie en voyageant.
L'envie d'aller vers l'autre aussi. Effectivement, il gagne sa vie en voyageant, puisque le voyage dans les mers du Sud ne part pas d'un projet personnel, mais là, d'une commande, d'une série d'articles qui avait été royalement payée d'ailleurs. Stevenson n'était pas un auteur maudit. À l'époque, il a été salué assez tôt et on le rémunérait grassement pour ce qu'il faisait. Mais c'est ça qui l'a motivé. Après, il s'est impliqué bien au-delà de ce qu'on lui demandait, puisqu'il a fait ses articles, mais il est resté après sur place. Il a même il s'est engagé dans les luttes indépendantistes à l'époque des Samoans contre l'impérialisme allemand. Donc il a été très 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 investi. Mais effectivement, le voyage a été fondamental dans sa démarche, et l'envie de rencontrer l'autre en fait un peu un précurseur, sans caricaturer, de ce qu'a été après l'envie de voyager, qui est devenu un des lieux communs de notre époque, et de l'aventure hippie aussi, de cette espèce de découverte qu'il y a eu là, dans des régions qui ne sont pas les siennes, au Népal, au Tibet, en Asie, mais il a été un peu précurseur dans les mentalités de cette envie d'aller se frotter à l'inconnu.
Et il est enterré au Samoa, et il paraît qu'il y a eu que les hommes, les habitants se sont relayés pour l'emmener tout en haut.
Exactement,
de la colline où
il y avait un problème
enterré.
Administratif pour l'enterrer. Effectivement, ils ont en une nuit construit, quasiment défriché un chemin pour qu'il puisse être là. Et je dois dire que dans les voyages que j'espère bien faire, quand on pourra à nouveau les faire sans problème, aller sur la tombe de Stevenson au Samoa est une des choses que je ferai voir.
Ah ouais, ça doit être quelque chose. On peut lire en attendant Voyage au pluriel, Voyage en France chez Artaud, et c'est vous qui signez la préface, Hubert Prolongeau. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous de lui redonner cette possibilité d'émerveiller les gens encore.
Et bon voyage.
Europe 1.
Dans un instant, visite de bibliothèque, on part chez Isabelle Carré, l'actrice qui est aussi une grande lectrice.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue et nous partons visiter une bibliothèque, celle d'Isabelle Carré.
Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. On est en plein Paris, dans un appartement tout petit.
Oui, et il y en a un peu partout, il y a plusieurs étages. Des toutes petites pièces, ouais.
Et avec rempli de livres.
Un bordel. Je suis contente que ça soit pas une caméra, je vous assure.
C'est ça ce qui est fou avec la radio, quoi. C'est que ça me permet de rentrer chez vous.
Sinon, je
si
vous aurais
une caméra, ah, j'aurais non, pas pu venir.
Il n'aurait pas eu moyen.
Mais alors, là, donc, on est dans une petite pièce.
Qui est censée être un bureau.
Sur lequel sont posés plein de livres. Ça doit être compliqué de travailler dessus, là.
On peut pas, ouais, en fait. On travaille sur la table de la salle à manger. Ce bureau, en fait, c'est. L'endroit où on essaye de mettre le plus de livres possible, mais là, il y a déjà plus de place.
Et là, il y a deux murs donc remplis de livres. Bah, c'est oui. Plutôt des beaux livres ici.
Oui, alors en dessous, non, c'est voilà, plein de livres
en vrac.
En vrac qui viennent de sortir et qu'on vient d'acheter. Et en haut, là, il y a tous les livres de photos.
Marilyn Monroe.
Voilà, moi, alors ce que j'adore, c'est Francesca Woodman, là.
Ah ouais.
C'est Michel Spinoza, qui. J'arrive pas à l'attraper. Ah si, voilà. C'est Michel Spinoza, en fait, avec qui j'avais tourné dans Anna M, qui m'avait fait découvrir la photographie, dont Francesca Woodman. Et depuis, je suis complètement dingue. J'ai même la chance d'avoir une photo d'elle.
Ah oui.
C'est mon trésor précieux, cette photo de Francesca Woodman. C'est le seul trésor que j'ai.
Ce sont des photos en noir et blanc.
Elle se met en scène elle-même, et c'est toujours dans des choses d'apparition-disparition.
Oui, il y a quelque chose de fantomatique.
Voilà, c'est ça. Les fantômes ne me dérangent pas à partir du moment où... Ou c'est des aussi jolis fantômes qu'elle, là, comme on la voit, contre un mur flou avec une grande natte, ses cheveux. Où, là, par exemple, elle s'est mis des copeaux de bois autour des poignets et des bras. Et on a l'impression qu'elle-même est devenue un peu comme un arbre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette photographe. Mais voilà, Michel Spinoza m'avait fait découvrir aussi Cindy Sherman.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
En ce moment, je lis le dernier livre de Aaron Appenfeld.
D'accord.
J'avais adoré Les Partisans.
Qui est mort
il y a un mois à peu près.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Et ce livre est magnifique.
Israélien.
Mais il est là-haut.
D'accord, bon, on va aller voir. Là, on est dans l'escalier.
Voilà, c'est en fait pour...
toute une bibliothèque dans l'escalier. C'est
caser
magnifique.
Ces livres qu'on n'arrivait pas à caser. Et voilà, et là, par exemple, on peut voir... beaucoup de livres sur Sylvia Plath. Je voulais faire un spectacle sur elle, mais en fait, c'était très compliqué d'avoir les droits.
Ouais.
Sa fille qui a les droits s'y oppose. Et du coup, on avait travaillé pendant des mois sur un spectacle qu'on n'a pas pu faire. En fait, dans mon livre, j'ai même mis un poème d'elle. C'est un texte que j'aime beaucoup. Ah, mais je crois qu'il est là-haut, en fait, parce que j'ai l'anthologie de ses poèmes. Et en fait, c'est un poème, je crois, qu'on trouve dans Arbre d'hiver et qui s'appelle Vertical. Ça commence par... Je suis verticale, mais je voudrais être horizontale.
Mais qu'est-ce qui vous plaît chez elle ?
Ce qui me touche beaucoup, c'est déjà dès ses journaux, quand elle a 17 ans, et puis tout au long de tout ce qu'elle écrit, on sent un tel doute. Et on sent qu'elle est toujours en train de dire « j'aimerais écrire », et en fait, elle est en train de le faire. Elle est en train d'écrire des choses magnifiques. Mais elle ne cesse de se projeter vers un futur où elle serait capable d'écrire ce qu'elle a dans la tête. Et elle ne voit pas qu'elle est en train de le faire et que c'est magnifique ce qu'elle fait. Et ça me touche beaucoup. Parce que j'ai l'impression que, oui, parfois on n'est pas le meilleur juge pour soi-même. Et son œuvre, en fait, elle l'a conçue sans le savoir. Par exemple, je crois que c'est là une des premières lettres magnifique qu'elle écrit, je crois, à sa mère. Oh, je ne sais pas si je vais le trouver. Ça, c'est « Je me croyais invulnérable ». Mais c'est pas celle-là. C'est une lettre, en fait, où elle s'appelle elle-même « La fille qui voulait être Dieu ». Ni plus ni moins. Voilà, c'est ça. À compter d'aujourd'hui, je vais tenir à nouveau un journal afin d'y coucher mes pensées et mes idées, quand j'en aurai le temps. Il faut absolument que je préserve ce miracle, avoir 17 ans. Chaque jour m'est si précieux que je suis terriblement attristée en voyant le temps m'échapper alors que je vieillis. C'est à présent que je vis le meilleur de ma vie. En ressongeant aux 16 années déjà écoulées, je revois les heures de bonheur et de malheur dans leur relativité avec leur importance fort relative et elles me tirent toutes le même sourire. J'ignore encore qui je suis, peut-être l'ignorerai-je toujours. Mais je me sens libre, dégagée de toute responsabilité, libre de m'isoler dans ma chambre entre mes murs couverts de dessins ou de photos. Ma chambre me convient parfaitement. paisible, peu encombré, bien arrangé. J'adore la ligne paisible des meubles, les deux étagères pleines de recueils de poésie ou de livres de contes conservés depuis mon enfance. En cette heure, je suis très heureuse, assise à mon bureau, d'où je vois les arbres dénudés de la maison d'en face. Je désire observer toujours. Je désire être profondément touchée par la vie, sans jamais être aveuglée, au point de ne pouvoir voir mon sort d'un œil plein d'humour, ni rire de moi-même comme je ris d'autrui. Je redoute de vieillir, je redoute de me marier, que me soit épargnée l'obligation de cuisiner 3 fois par jour, épargnée l'inexorable piège de la routine et de l'encroûtement. Je veux être libre, libre de connaître des gens avec leur passé, libre de découvrir d'autres milieux et d'autres morales, ou d'autres critères que les miens. Je crois que ce que je désire, c'est d'être omnisciente. Si je devais me donner un nom, ce serait la fille qui voulut être Dieu.
C'est magnifique. Mais à la fois, c'est terrible d'être très heureux, vraiment comblé, et en même temps se dire déjà qu'on va forcément être malheureux parce qu'on vieillit.
Perdre quelque chose en vieillissant. Je crois tout le contraire.
Vous n'êtes pas d'accord avec elle?
Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais ça me touche qu'elle pense ça. Et je vois son inquiétude, c'est ça qui me touche, c'est ce personnage, c'est cette femme, c'est son inquiétude, sa fragilité, l'idée que... comment dire, oui, être Dieu, quoi, cette pression qu'elle se met elle-même de performance, de parvenir toujours, ce que je disais tout à l'heure, à écrire de grandes choses, sans s'apercevoir qu'elle est en train de le faire, sans s'apercevoir qu'elle a déjà cette beauté en elle.
Je vois des Daniel Pennac juste à côté. Tout le monde a des Daniel Pennac dans sa bibliothèque. Mm-hmm. Vous aimez bien ?
Moi, j'aime bien et j'aime beaucoup l'homme.
Oui.
J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, même d'aller manger un couscous avec lui, qui sait écouter, qui s'intéresse vraiment aux autres, qui n'est pas que dans son univers, qui sait en sortir pour vous accueillir aussi.
Je parie que votre préféré, c'est Chagrin d'école.
Je sais pas. J'ai du mal à dire quels sont mes préférés.
Bah, en tout cas, il y a beaucoup de pages cornées.
Oui, mais ça, je corne beaucoup.
mais pas en marque-page.
Et non. Et j'abîme le livre. Et même, parfois, je souligne et j'écris des choses. Ou alors, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je recopie. Mais je recopie des phrases et ça me fait des cahiers avec plein de phrases. Mais quand je commence à recopier tout le livre, là, je me dis, faut que j'arrête, quoi. J'ai qu'à le relire, en fait.
Mais est-ce que vous les relisez ?
Oui, oui, ça m'arrive. Par exemple, cet été, j'ai découvert Carson McCullers. Je ne connaissais pas du tout.
Ils ont tout réédité chez Stock.
Voilà, j'ai profité de cette réédition. Je suis bien reconnaissante à Stock d'avoir fait ça. Et l'édition, en plus, est magnifique. Et j'ai découvert... surtout, Le cœur est un chasseur solitaire, mais j'ai tout lu, du coup, même ses nouvelles. Et j'ai adoré parce qu'elle parle de cette intériorité, d'une solitude qui pousse les gens à rentrer dans les cafés parce que c'est allumé et parce qu'on peut se réchauffer les uns aux autres, même sans se parler, juste en se côtoyant. Et j'aime beaucoup les gens, en fait, les auteurs qui savent pénétrer dans l'intériorité des personnages et on a l'impression qu'on vit en eux. Et cette solitude aussi, c'est toujours un thème qui me touche beaucoup.
C'est fou parfois de découvrir un auteur et de se dire comment j'ai fait avant.
Sans lui ?
Ouais.
Et oui. Mais ça, c'est une source d'angoisse.
Mais oui.
Rater un auteur, quoi.
Parce que ça veut dire qu'il y en a forcément qu'on n'a pas découvert, mais qui reste à découvrir. C'est ça ce qui est beau aussi.
Voilà. Mais forcément, on va en louper, quoi.
Mais oui. Alors. Donc là, on arrive dans votre chambre.
Oui, c'est très intime.
Ouais, je suis un peu intimidée. Hein,
j'espère bien.
Et là, vous avez pas une table de chevet.
Non.
Vous avez un parquet de chevet avec des montagnes de livres à côté de votre lit.
Oui, et encore, j'ai fait le tri avant que vous soyez là parce que c'était encore plus
bordélique. Parce que vous n'arrivez pas à vous décider, savoir lequel garder à côté de vous précieusement ou c'est parce que vous avez eu la flemme de le ranger ?
Non, en fait, j'aime bien qu'il soit là. C'est vrai que leur présence, c'est pas forcément... c'est des livres que j'ai lus pour la plupart, mais voilà, par exemple, Raymond Carver, qu'est-ce que vous voulez voir ? J'aime bien qu'il soit à côté de moi.
Le polo-ster 4-3-2-1 qui vient de sortir.
Qui est complètement corné dans tous les sens.
Il fait 1000 pages, c'est déjà un gros pavé, mais comme vous l'avez corné, il a encore pris plus de volume. C'est l'histoire, donc, d'un homme, mais avec 4 vies alternatives.
4 possibilités.
Et donc, il y a chapitre 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
etc. Il aurait pu se contenter de faire première partie avec toute la vie, deuxième partie avec une autre possibilité de vie. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, il imbrique tout.
Ouais.
et qui nous perd jamais malgré ça. Donc c'est...
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'ai adoré parce que je suis obsédée, moi, par les choix. Le fait, oui, qu'un choix, même infime, puisse influencer toute notre vie. Je suis complètement obsédée par ça. Dans Les Rêveurs, à la fin du livre, je parle d'une lettre qui a été déchirée trop tôt ou trop vite et qui fait que je suis là aujourd'hui. Si cette lettre n'avait pas été déchirée, je ne serais pas là en train de vous parler. Un livre que j'adore, c'est une pièce de théâtre d'ailleurs, de Max Frisch, qui s'appelle Biographie en jeu. Et en fait, il lui demande, un personnage qui pourrait être le diable, lui propose au héros de changer un événement de sa biographie. Un événement qui a été pénible, douloureux, enfin, voilà. Et en fait, il essaye, le premier événement qui lui vient, c'est effectivement dans la cour d'école, il a blessé un camarade qu'il a rendu aveugle avec un pistolet de balle à plomb. Il dit ça, j'aimerais vraiment le changer, quoi. Mais après, il se rend compte que s'il avait changé ça, il n'aurait pas changé d'école, il n'aurait pas rencontré telle personne, il n'aurait pas, etc. Donc il dit, finalement, ça ne va pas être possible de changer ça parce que j'ai trop besoin de... Puis après, il dit, on divorce alors, parce que c'était vraiment dans un bain de sang. Puis il se rend compte que s'il n'avait pas divorcé de cette façon-là, il ne se serait pas trouvé, rencontré telle personne après qui l'a consolé et qui finalement a été la bonne personne. Et il finit par se dire, je ne change rien. Ça me rassure.
Ouais. Juste à côté, il y a un de mes livres préférés, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. C'est un livre de jeunesse ou vous l'avez découvert récemment ?
J'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'était au mois de juin dernier, juste avant Le cœur est un chasseur solitaire. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont des points communs.
Avec Carson McCullers ?
Oui. Ouais. Bon, déjà, ça se passe dans le sud.
En Alabama, c'est Scout qui raconte l'histoire de son père qui doit défendre un homme noir accusé d'avoir violé une blanche. Mm-hmm. Et du coup, toute la communauté fait bloc contre cette famille qui défend un noir. Quoi.
C'est ça, et surtout, c'est le regard de cet enfant.
Ouais.
Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est vraiment le...
12 ans.
Elle a 12 ans, et on a ses yeux, tout à coup, on voit comme elle voit, on pense comme elle pense, et je ne sais pas comment l'auteur a pu être aussi juste par rapport au regard d'un enfant. Et elle est tellement attachante, et elle nous broie le cœur, quoi.
Et en même temps, il y a beaucoup de romanesque là-dedans. Mm-hmm. C'est une vraie histoire qui emporte, quoi, qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Vraiment, quoi. Mm-hmm.
Oui, c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans Carson McCullers, c'est-à-dire que peut-être on s'autoriserait moins ce romanesque aujourd'hui.
Ah tiens, François-Henri Désérable.
Ah oui, alors je ne l'ai pas encore lu. Pourtant, j'avais très envie de le lire et je ne l'ai pas encore lu.
Un certain Monsieur Piekielny parle de La promesse de l'aube.
La promesse de l'aube ici aussi.
Ah.
Et donc, j'avais très envie de savoir qui était cet homme.
Est-ce que vous aimez La promesse de l'aube ?
Oui, beaucoup.
Ah bah, ça va vous
comme
plaire,
vous avez
ça,
pu
forcément.
Le constater, j'aime beaucoup les livres qui parlent de l'enfance. J'adore l'idée de ce François-Henri Désérable là, qui va enquêter sur un personnage de roman. Enfin, de roman, mais qui existe.
Ouais. Ah ouais, un personnage de fiction qui existe ou qui n'existe pas, on ne sait pas vraiment.
Qui voulait, en fait, qu'on parle de lui dans Paris.
Oui, qui dit à Romain Gary, tu seras un grand homme, donc dis aux grands de ce monde que...
Que j'existe.
Dans telle rue à Villeneuve, habitait un certain monsieur Piekielny.
Moi, ça me fait penser, un jour, j'avais j'étais en train de retirer de l'argent à un distributeur, et il y a un clochard qui arrive vers moi et qui me dit... je pensais qu'il voulait... que je lui donne de l'argent, qui me dit « Parlez-moi de moi ». Alors je dis « Comment ça, parlez-moi de moi ?» Je n'ai pas compris, quoi. « Ben si, parlez-moi de moi. Qu'est-ce que vous pensez de moi, là, quand vous me voyez ? Qu'est-ce que je vous inspire ? Dites-moi quelque chose sur moi. Parlez-moi de moi, s'il vous plaît. » En fait, je ne crois pas qu'il était fou. Je crois qu'on est tous un peu comme ça, quoi. En fait, on rêve d'une rencontre où, par exemple, dans un livre, on se lit et on vous parle de vous.
C'est... une conclusion parfaite. Donc on va vous laisser
là. Ça y est,
c'est
fini ?
Bah oui.
Ah, dis donc, c'était rapide.
Bah oui, ça va trop vite, il y a trop de livres. Mais
bah
bon,
ouais, j'aurais bien parlé encore de tout cela, mais... Bon. Nos débuts dans la vie, Modiano. Vous savez, je le croise au jardin du Luxembourg.
Et vous lui parlez ?
Et je lui parle. Et il a toujours la gentillesse de s'arrêter. Et toujours la gentillesse de discuter avec moi. Et j'aime énormément la façon dont il écrit, évidemment, mais aussi dont il s'exprime. Je sais que les gens sourient en le voyant s'exprimer. J'avais adoré son discours quand il a reçu le prix Nobel, où il avait dit, d'abord il parlait de lui en disant « il », ça je trouvais ça très beau, et il disait peut-être qu'il a du mal à s'exprimer verbalement, à parler haut et fort, peut-être que ça vient du fait qu'il est tellement habitué à raturer ses écrits.
Et oui, il cherche le bon mot, il cherche même en
le
parlant.
Bon mot, voilà. Et aujourd'hui, on devrait tous avoir le sens de la répartie, être hyper efficace, trouver voilà, le point final de chaque phrase et faire un bon mot. Et lui, il est à l'opposé de ça. Ouais. Et ça fait du bien.
Il dit tant pis, je vais prendre mon temps, mais je vais trouver le mot exact.
Ou je vais pas trouver, mais c'est pas grave.
Tant pis. Bon, mais merci beaucoup Isabelle Carré de nous avoir reçus. À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Retour dans les studios d'Europe 1. Dans un instant, les libraires.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, La Voix est libre de l'été, et donc deux libraires au lieu d'un, et en plus en studio, enfin pas tout à fait, il y a Christophe Daniel qui est avec nous de la librairie La 25e Heure à Paris. Bonjour Christophe.
Bonjour Nicolas.
Et on part, mais alors par ligne quand même, en Guadeloupe, rejoindre Virginie Pontaune de la FNAC Guadeloupe. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Ben on commence par vous, tiens, c'est quoi votre choix de cette semaine?
Alors j'ai pris une nouveauté qu'on peut classer au rayon ésotérique. J'ai pris Karma, au courrier du livre, Karma, l'avenir est ouvert, de Shogyam Trungpa Rinpoche. Ce que j'ai apprécié dans cette lecture, ce sont les éléments de clarification qu'amène l'auteur sur ce concept qui est pas mal galvaudé du karma. Donc, ça a été quand même un pionnier de l'enseignement bouddhiste tibétain en Amérique du Nord. Au départ, il était moine bouddhiste et puis il a fini laïque. Il a épousé une Anglaise et donc il a véhiculé son message. Il a recréé des écoles.
Ah, mais c'est pas un roman alors.
Non, c'est pas un roman. Non, c'est pas un roman. Ça fait partie, on va dire, des essais.
Et alors, expliquez-nous, parce que moi, j'y connais rien en matière de karma.
Je vais vous expliquer. Si je peux me permettre aussi, je vais un peu vous citer le livre. Par exemple, le karma est comme une partie d'échec. Là où vous vous trouvez actuellement sur l'échiquier est le résultat de vos actions passées. Mais ce que vous allez jouer au coup suivant dépend de votre situation présente. Cette situation actuelle est en partie influencée par le passé, mais en même temps, le présent est influencé par le futur.
Ok, mais si on est nul aux échecs.
Ah oui, ben c'est comme moi, si on connaît que quelques coups, bah écoutez, après il faut faire confiance à l'avenir et au présent, tout en étant responsable. Donc en fait, le principe de son enseignement, c'est de vivre un enseignement en faisant confiance surtout à sa propre intelligence et en apprenant à l'affûter toujours plus, plutôt que de s'abandonner à une autorité extérieure.
Oui, non, ça n'a rien de magique, le karma, en fait, quand on dit, tiens, c'est un retour de karma, etc. En fait, non, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de nous raconter.
A priori, ça n'a rien de magique. C'est quand même, on découvre dans le livre, pas forcément tous les temps les abolitions, mais c'est quand même pas mal codé comme système de pensée. Ça, en fait, le karma va correspondre à l'action individuelle. L'action individuelle avec une portée plus transcendante, en fait, et qui détermine un petit peu la position de chacun si on se situe dans ce qu'on appelle les renaissances ultérieures, les réincarnations. Sachant que pour le Bouddha, ce qui compte, c'est l'intention de l'acte et pas l'acte lui-même.
Parfait. Vous nous rappelez le titre et le nom de l'auteur, je vous laisse faire.
Karma, sous-titre L'avenir est ouvert, au courrier du livre de Shogyam Trungpa Rinpoche.
Merci beaucoup Virginie Pontaune. Et c'est Christophe Daniel, est-ce que vous avez un bon karma, vous?
Alors ça, j'attends une réponse un jour. Mais
faudra vérifier dans le livre de Virginie.
Voilà.
Vous avez choisi quoi, vous?
Alors moi, c'est pas tout à fait le même karma. J'ai choisi un roman d'Alexandre Labruf, qui est une nouveauté en format de poche. C'est un roman qui était sorti aux éditions Verticales en 2019.
J'adore.
Et qui s'appelle Chronique d'une station-service.
Dont Marie-Ève Charbonnier nous parlait il y a quelques semaines.
Ah, bah
superbe
alors,
roman. J'avais reçu Alexandre Labruf. J'ai adoré. Racontez-nous.
Le narrateur, c'est un nommé Beauvoir, avec un E à la fin. Il est pompiste. dans une station service, bar, boutique, dans la périphérie parisienne du côté de Pantin. Et de ce lieu particulier, il observe le monde, il adore voir les gens qui débarquent, alors totalement différents les uns des autres. Il a des réflexions, des théories sur beaucoup de choses. Il tue le temps aussi, parce que c'est quand même pas trépidant son activité de pompiste. Donc il a un vieux téléviseur sur lequel il passe des vieilles cassettes VHS, principalement des Mad Max et principalement la version de 79, aussi des séries B de SF. Autrement, il a un ami qui était un tennisman professionnel et qui s'est reconverti dans le coaching. Ils jouent tous les deux au jeu de dames. Et l'ami en question, à une cliente un peu méprisante sur le jeu de dames, lui explique toute la supériorité du jeu de dames sur le jeu d'échecs. Voilà, entre autres.
C'est pas vraiment un roman, en fait. C'est
non,
des
alors c'est pas vraiment
comme
un roman.
Ça, quand il croise quelqu'un, il le décrit, il nous
voilà,
parle d'autre chose.
Voilà, et puis c'est construit d'une manière très particulière. C'est des paragraphes. Ça peut être une ligne et le paragraphe, enfin, trois pages au maximum. Et ça donne un rythme dans la lecture vraiment intéressant. C'est drôle, c'est hyper drôle. C'est déjanté aussi. Et puis, parfois, ça peut flirter avec une intrigue qu'on pourrait trouver dans un roman policier, parce qu'il se rend compte qu'il y a des gens qui viennent déposer des livres avec des codes secrets dedans, destinés à d'autres. Il se demande si la station-service n'est pas le lieu d'un trafic. Et puis, lui-même donne par erreur un SDF en pensant lui donner quelques euros, il lui donne sa clé USB où, entre autres, il y a le roman qu'il vient d'écrire, et c'est la seule trace qu'il a de ce roman.
Chronique d'une station-service d'Alexandre Labruf. Alexandre Labruf qui a publié justement l'année dernière un bouquin, alors j'ai oublié le titre exact, mais je crois que c'est Journal de Wuhan,
parce qu'il est
attaché d'ambassade ou je sais pas trop quoi,
oui,
en Chine.
Attaché culturel,
il était à Wuhan quand le Covid a commencé.
Tout à fait.
Et donc il a raconté ça dans un roman complètement halluciné, qui est son deuxième, le Journal de Wuhan, et ça c'était son premier chronique d'une station-service.
Oui, alors moi j'ai pas encore lu le Journal de Wuhan, mais après avoir lu les chroniques d'une station-service, j'ai très envie de continuer à lire Alexandre Labruf. Ouais.
Merci beaucoup Christophe Daniel, librairie merci. La 25e heure à Paris. Et merci à vous, Virginie Pontone, là tout là-bas en Guadeloupe. Merci beaucoup.
Avec joie, Nicolas.
À bientôt.
À très bientôt.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour la préparation et à Boris Paczynski, évidemment, l'homme aux doigts de fée, avec ses petits ciseaux. À la semaine prochaine, rendez-vous avec la comtesse de Ségur. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.